L'épître de Jacques. Le thème, c'est quoi? C'est bon, hein? Vous êtes attentifs, vous écoutez, vous retenez bien. Hein? c'est écrit. Mais je suis certain que vous le saviez. Hein? La mise à l'épreuve de la foi. Alors, on a regardé jusqu'à maintenant, jusqu'au chapitre 4, et le verset 12. La semaine passée, on a vu les versets 1 à 12. Ce matin, on va voir les versets 13 à 17. Selon un sondage, les hommes sont ceux qui, le plus souvent, contrôlent la manette. Ou il y en a qui l'appellent la zapette. OK, j'ai entendu la zézette, la zapette, OK? Mais c'est la manette du téléviseur lorsqu'il regarde la télé en couple et en famille. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui? Combien d'hommes ici sont ceux qui contrôlent la manette chez eux? Quand vous écoutez la télévision en... Il y a des épouses qui lèvent la main, des... OK? Alors, il y a quelques dames qui ont levé la main. Alors, oubliez pas le déjeuner des dames, hein? Hein? Je perds le contrôle. Maintenant, la question que Jacques aimerait nous poser. Moi, j'ai de la misère avec la mienne, ma manette. Ah, voilà. C'est cette question ici dans le chapitre 4, versets 13 à 17. Qui contrôle la manette de ma vie? Alors, j'ai donné comme titre à ces versets le contrôle de la manette. Vous allez voir pourquoi en lisant. Maintenant, ce que Jacques va faire, c'est qu'il va exposer dans ce texte, en fait, il continue à ce qu'il est en train de faire dans le chapitre 4. Il va exposer le problème crucial du cœur de l'homme. On a vu la semaine passée qu'il y a une bataille spirituelle, puis l'enjeu de cette bataille, c'est la conquête de mon cœur. Qui va prendre le contrôle de mon cœur? Qui va contrôler mon cœur? Qui va être le maître de mon cœur? Alors, Jacques, ici, il va venir nous exposer que le problème de l'homme, c'est celui-ci. Son désir d'être au contrôle. Sa quête de l'auto-gestion, sa déclaration, en fait, d'indépendance envers Dieu. Ce que Jacques décrit ici est cette inclinaison de l'homme à gouverner son être et à se rebeller contre Dieu en faisant ce qui lui semble bon à ses propres yeux. On a tous cette inclinaison en nous. Chacun de nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Notre bonheur véritable se trouve en Dieu seul. Malheureusement, nos premiers parents se sont rebellés contre Dieu en écoutant la proposition ou la vision du monde de celui qui est menteur et meurtrier dès le commencement. Le diable, Satan. La proposition de Satan dit que Dieu ne désire pas réellement notre bonheur et qu'il faut prendre tous les moyens nécessaires pour aller le chercher par nous-mêmes. Ça, c'est sa vision du monde. C'est sa proposition que Satan veut nous vendre. Il veut nous convaincre de cela. On pourrait l'appeler, vous savez, le plus gros mensonge de Satan, parce qu'il y en a beaucoup de mensonges, mais son plus gros mensonge, c'est celui-là. Dieu ne veut pas vraiment notre bonheur. Et pour y arriver, je dois prendre tous les moyens à ma disposition pour être heureux. La vision du monde que Satan essaie de nous vendre renferme un doute viscéral au sujet du caractère de Dieu. Comment un Dieu bon permettrait-il que quelque chose de mauvais m'arrive? Combien de fois on l'entend? Et combien de fois on se la pose, cette question-là? Mais ce qui est sous-cutané à ça, C'est cette proposition du diable, que Dieu n'est pas là pour mon bonheur. Comment un Dieu bon pourrait-il me priver de quelque chose de bon? Pourquoi un Dieu d'amour me laisse-t-il souffrir autant ou aussi longtemps? Pourquoi permet-il autant de souffrance dans le monde? Voyez, ce qui est derrière ces questions-là, c'est le doute sur le caractère de Dieu. Depuis la chute, il semble que l'homme lutte avec un faux raisonnement qui s'est gravé sur l'ardoise de son cœur. Ce faux raisonnement représente en quelque sorte l'essence même du plus gros mensonge de Satan. Certains l'appellent la logique déchue. Elle se situe au centre même de notre nature humaine et pécheresse, qui est toujours enclin vers le mal, ou de notre chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Cette logique déchue est rebelle contre Dieu, car elle refuse d'accepter qu'un Dieu bon, qu'un Dieu souverain, qu'un Dieu sage et qu'un Dieu tout-puissant puisse permettre la souffrance ou l'injustice. C'est inacceptable. Cette logique déchue est incapable de se soumettre à Dieu en lui faisant confiance. Comment puis-je faire confiance à un Dieu qui permet l'injustice et la souffrance? Ou encore de reconnaître la sagesse de Dieu à travers l'épreuve, la souffrance ou l'injustice? Cette logique déchue est prête à déclarer la guerre contre Dieu si nécessaire. Elle est foncièrement orgueilleuse. Aimeriez-vous assister à la naissance d'un cœur orgueilleux? Alors voici le parcours qui donne naissance à l'orgueil dans ma vie. La phase initiale ou le point de départ est celle du doute à l'égard de la bonté de Dieu. Si Dieu est tout-puissant, c'est qu'il peut soulager ma souffrance, changer mes circonstances, rendre ma vie plus agréable, alors pourquoi ne le fait-il pas? Dieu, t'es où quand ça fait mal? Avez-vous déjà entendu ça? Il y a une chanson populaire qui joue à la radio. Dieu, t'es où quand ça fait mal? Qu'est-ce qui est derrière? Dieu, tu n'es pas là quand j'ai besoin de toi. Dieu, si tu es si bon, si tu es si grand, si puissant, si sage, pourquoi tu n'es pas là quand j'ai besoin de toi? Comment puis-je te faire confiance alors? Voyez comment ça se passe? Cette première phase, en fait, est la plus cruciale, car elle sert de fondation à cette logique déchue. Alors, premièrement, cette logique déchue, elle va reposer sur un mensonge. Alors, elle va reposer sur un mensonge, et ce mensonge est celui-ci. Je ne peux pas compter sur Dieu quand j'ai vraiment besoin de lui. Et c'est ça que ça l'enclenche en moi. Que se passe-t-il alors dans mon cœur? Quand j'arrive à cette déclaration en dedans de moi, je suis placé devant un dilemme. Si je ne peux pas compter sur Dieu pour prendre soin de moi, quelles sont mes autres options? Et là, voici qu'est-ce qui arrive. La première chose, c'est que je peux me tourner vers les autres. Ça, c'est une option. Si Dieu n'est pas là pour prendre soin de moi, donc peut-être que les autres vont être là pour moi. Et là, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? J'adopte un rôle d'une personne qui est vulnérable. Comprenez? Une personne qui est sans ressources. Une personne qui est incapable d'arriver à ses fins. Donc là, j'ai besoin des autres. Et là, je deviens centré sur moi-même. Et la conclusion à ça, ce qui est malheureux, c'est que je vais arriver à me haïr moi-même. Voyez? Parce que là, je me suis tourné vers les autres n'étant pas là pour moi tout le temps, ou comme j'aimerais qu'ils le soient. Alors, à un moment donné ou à un autre, ils vont me décevoir, ils n'auront pas la capacité de venir à mon secours, ils ne seront pas disponibles, ils auront fait quelque chose, mais ce n'est pas la bonne chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, je me sens rejeté. Et la conclusion logique à ça, c'est que je me hais. Une autre possibilité, c'est je peux me tourner vers moi-même. Et là, c'est quoi ici? Là, je prends la manette entre mes mains. Avant, je donne la manette aux autres. Ici, je prends la manette entre mes mains. Et là, je vais prendre les choses en main. Si Dieu n'est pas là pour moi, alors moi, je vais prendre soin de moi-même. Moi, je vais diriger ma vie. Moi, je vais réussir à arriver à mon bonheur. Et ce qui arrive ici, à ce moment-là, parce que je ne peux pas compter sur les autres, qu'est-ce qui arrive dans mes relations avec les autres? Eh bien, je me méfie des autres. Et, dans un sens, je les hais. Voyez? Parce qu'ils ne sont pas là pour moi. Donc, Dieu n'est pas là pour moi. Les autres ne sont pas là pour moi, donc moi, je suis là pour moi-même. Je n'ai pas confiance en Dieu, je n'ai pas confiance aux autres, mais j'ai confiance que en moi-même. Et là, dans ces deux scénarios, je finis par devenir centré sur moi-même. Soit en prenant le rôle d'une victime qui est faible et que personne n'aime, donc là, ici, je vais avoir de l'orgueil, mais un orgueil qui est caché, ou soit en prenant le rôle d'un battant, qui doit être fort et qui ne peut compter que sur lui-même. Alors ici, mon orgueil, elle est claire, évident, ce qui donne naissance à ce cœur orgueilleux. Maintenant, Jacques va commencer par définir ici la fausse prétention des orgueilleux, ceux qui pensent contrôler la manette de leur vie, pour ensuite leur donner une leçon d'humilité avant de les inviter à faire le choix entre ce qui est foncièrement mal et ce qui est fondamentalement bien. Et ça, c'est dans Jacques 4, 13 à 17. Et là, je vais lire le texte ici, Jacques 4, 13 à 17. Regardez bien ce qu'il dit ici. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. » Qui contrôle la manette? Hein? Verset 14. « Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans votre présomption. Toute gloriole de ce genre est mauvaise. » Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Alors, quelle est la fausse prétention d'un cœur orgueilleux? Alors, cette fausse prétention, c'est je dois prendre les choses entre mes mains pour que ça bouge. Ou c'est encore cette idée erronée qui est véhiculé par la pensée positive ou le culte de l'estime de soi. Voyez, plus je suis en contrôle de moi-même, mieux ma vie va aller. Et ici, c'est exprimé quand Jacques dit « Nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. » Comprenez? C'est « Voici quel est notre projet, voici quel est notre plan. » Et voici ce qui va arriver. Tout ça, ça dépend de qui? Ça dépend de moi. Ça dépend de nous ici. C'est nous qui allons faire que les choses vont arriver. Je prends les choses en main et ça bouge. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Hmm? Ah. Est-ce que ça marche? Peut-être que ce n'est pas la bonne question, est-ce que c'est vrai, mais est-ce que ça marche? Hmm? Est-ce que ça marche? OK, ça peut marcher, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que c'est une vision du monde qui est basée sur la vérité ou sur la réalité? Ah! Est-ce que c'est vrai qu'il faut qu'on prenne les choses en main pour que ça bouge? Aide-toi et... Bon. C'est-tu un dilemme, ça, cette affaire-là? Hein? Autrement dit, si je fais pas la vaisselle, c'est qui va la faire? Si je coupe pas le gazon, c'est qui va le couper? Si je paye pas mes factures, c'est qui va les payer? Alors, c'est quoi le problème avec cette perspective-là? L'orgueil? OK. Ça va bien avec le sujet du message, l'indépendance? OK. Alors, ici, une chose qui est certaine, et c'est ce que Jacques essaie de communiquer, c'est pas la passivité. Jacques n'est pas en train de dire « Prenez pas votre douche, faites pas les repas, faites pas le ménage, allez-y, lâchez votre emploi, Dieu va pourvoir. » Voyez? Faites confiance à Dieu, il nourrit les oiseaux, il va vous nourrir aussi, vous n'avez pas besoin de travailler, et ainsi de suite. Vous comprenez les raisonnements qu'on peut avoir? Alors, Jacques n'est pas en train de dire ceci, mais ce que Jacques est en train d'attaquer, c'est cette idée pernicieuse que je ne peux pas compter sur Dieu, que c'est moi qui est en contrôle de la manette. Donc, Dieu, même s'il serait dans la perspective, parce qu'il peut faire partie de l'équation, dans le sens qu'il peut être un aidant, alors je peux aller cogner à la porte de Dieu, comme j'irais cogner à d'autres portes, je vais aller cogner aussi à celle de Dieu, mais je ne peux pas me fier sur Dieu. Et si ce que j'ai à cœur n'arrive pas, bien là, il va falloir que je m'implique davantage. Puis là, que Dieu, ce qu'il a à dire là-dessus, bien, il me laisse le contrôle. Puis si je peux réaliser la chose, ça va arriver, à moins que Dieu me mette des obstacles dans mes jambes. Vous comprenez un peu? Ici, l'idée là, de fond, c'est que je ne peux pas vraiment faire confiance à Dieu. Tant mieux s'il m'aide, mais je ne peux pas vraiment y faire confiance. Alors, c'est ce doute à l'égard de la bonté de Dieu. Et c'est pour ça que ça peut être très subtil dans nos cœurs, lorsqu'on est en train de gérer notre vie. Alors ici, Jacques ne condamne pas ceux qui font des sages projets, mais plutôt ceux qui font des projets où Dieu est exclu. Où Dieu est comme un peu comme dans un curriculum vitae, une personne de référence, mais il n'est pas la personne centrale. La personne qui vit comme si Dieu n'existait pas élabore des projets et prend des décisions sans tenir compte de Dieu. Mais celui qui aime Dieu s'en remet à lui pour tous ses projets. Ça, c'est la différence. Il recherche constamment l'approbation de Dieu dans tout ce qu'il fait. L'opinion de Dieu est fondamentale à sa vie. Et là, ici, c'est une disposition de cœur. Comprenez? C'est vraiment une disposition de cœur qui m'amène tout simplement à me mettre devant Dieu et dire, Seigneur, voici qui je suis. Voici ce que j'aimerais qu'il se passe. Seigneur, est-ce que je peux te confier ça? Est-ce que, Seigneur, j'ai confiance que tu peux agir dans cette situation-là. Et que si, Seigneur, tu n'agis pas, c'est correct. C'est correct. Moi, je vais simplement faire ce que tu me montres que j'ai à faire. Mais je ne veux pas prendre la manette entre mes mains. La manette, Seigneur, elle est à toi. Je te la donne. On a un exemple dans l'Écriture de Néhémie, avec le projet Néhémie qu'on a entendu tantôt. Et Néhémie a eu à cœur de venir en aide à son peuple. Et voici ce qu'on lit au chapitre 1, qui nous montre cette disposition de cœur que Néhémie avait. « Lorsque j'entendis ces choses que ses frères juifs lui avaient rapportées de Jérusalem, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux et je dis, « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme en parlant du roi qui était son patron. » Et là, Néhémie rajoute, « Le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Ça, c'est ce que Néhémie savait. Alors, Néhémie avait quelque chose à cœur. Mais il s'est dit, « Ce qui est important, c'est que Dieu soit avec moi. Que Dieu soit dans ce projet du début à la fin. » Et c'est pour ça qu'il est allé dans la prière. C'est pour ça qu'il a pris du temps pour jeûner. Comprenez? Combien de nous, on prend des décisions sans même prendre le temps de chercher la face de Dieu? Puis pourtant, des fois, c'est des grosses décisions. Est-ce qu'on se rappelle ce que Jacques nous a dit dans les versets 1 à 12? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de réponse? C'est parce qu'on ne demande pas. Donc, c'est entre nos mains. Mais on n'arrive pas à voir qu'est-ce qu'on a vraiment besoin. Ou bien non, on demande mal, parce que là, on a des désirs qui sont égoïstes. Et là, on voudrait que Dieu vienne dans nos désirs égoïstes. Vous voyez? Mais ce qui est sous-cutané à tout ça, c'est un cœur indépendant vis-à-vis de Dieu. Oui, si Dieu peut m'aider, je vais le mettre sur mon équipe. Mais s'il ne m'aide pas, je passe au plan B. Comprenez? Et fondamentalement, je ne fais pas confiance à Dieu parce que je crois ce mensonge que Dieu n'est pas là pour moi. Dieu ne prendra pas soin de moi. Je dois prendre les choses entre mes mains. Combien d'entre vous, mesdames, vous voulez que votre mari fasse quelque chose, puis il ne le fait pas? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez dans la prière en demandant au Seigneur, « Seigneur, est-ce que tu peux toucher le cœur de mon mari? Seigneur, tu connais la situation. Tu connais ce qui devrait arriver chez nous. Seigneur, est-ce que je peux te faire confiance? » Que toi, tu as un plus grand accès à son cœur que même moi, je peux en avoir un. Est-ce que tu peux changer le cœur de mon mari, Seigneur? Peux-tu l'emmener à être moins occupé à son travail? Et là, vous priez comme ça pendant des semaines, des mois, en étant fine et gentille quand il rentre du travail. De bonne humeur. Ou est-ce que vous prenez les choses entre vos mains pour que ça bouge? Maintenant, ici, Jacques nous donne une leçon d'humilité. Qu'est-ce qui est la leçon d'humilité que Jacques nous donne? Qu'est-ce qu'il voudrait qu'on comprenne? Bien, en fait, il dit à peu près ceci. Je l'ai mis dans mes mots à moi. C'est que je n'ai pas le contrôle sur grand-chose. Je n'ai pas le contrôle sur la durée de ma vie. Et je n'ai pas le contrôle sur son utilité. Mais je peux faire le bon choix. Hein? Mais ça, je peux le faire, le bon choix. C'est quoi faire le bon choix? Le mauvais choix, ça serait de prendre la manette en main puis dire, non, Dieu, il n'est pas vraiment là pour moi. Mais faire le bon choix, c'est dire, non, Dieu, il est là pour moi. Puis je vais y faire confiance. Je peux y faire confiance. Et ça, c'est quelque chose. Jacques dit, « J'ai aucune certitude ce qui arrivera demain et ce à quoi ma vie va ressembler dans l'avenir. La durée de ma vie est comme une vapeur qui paraît brièvement et ensuite disparaît. » Troisième chose qu'il dit, le Seigneur est le seul qui est véritablement en contrôle de ma vie, que ce soit au niveau de sa durée ou de son utilité. » Et la quatrième chose, Jacques dit, « Le choix que Dieu me donne est entre faire le mal et faire le bien. Faire le mal revient ici à vivre ma vie comme si Dieu, comme si c'était moi qui étais au contrôle de la manette de ma vie. Mais faire le bien revive à vivre ma vie en laissant Dieu au contrôle de la manette de ma vie. » Maintenant, comment faire le bon choix? Entre laisser à Dieu le contrôle de la manette ou vivre comme si c'était moi qui étais au contrôle de la manette? Vous savez, c'est tellement subtil, cette question-là, dans nos cœurs, qu'il faut vraiment ici faire ce que Jacques nous donnait comme conseil dans le chapitre 4. La première chose, vous savez, il faut que j'admette que je suis orgueilleux. Il faut que j'admette que ça fait partie du dilemme de mon cœur où je dois prendre les choses en main. Je suis ce genre de dynamique, ça arrive dans ma vie. Et j'ai de la misère parfois à faire confiance à Dieu. Il faut que le Seigneur puisse me montrer que oui, ça fait partie du dilemme de mon cœur. Donc, admettre que mon cœur est orgueilleux, c'est très important. Voyez? La deuxième chose que je dois faire, c'est de confesser. Je dois confesser à Dieu que j'ai de la misère à lui faire confiance. Et la troisième chose, et je vous dis honnêtement, il n'y a rien qui va se passer substantiel à moins que j'arrive à cet aspect-là qui est de m'approcher de Dieu pour lui demander de me montrer ce qui se passe dans mon cœur, me montrer même une image de mon cœur, à quoi est-ce que mon cœur ressemble et comment il peut prendre soin de mon cœur. Parce que vous savez, ce qui est assez particulier dans un cœur qui est autosuffisant ou quelqu'un qui est orgueilleux, c'est cette conviction que si je ne suis pas là pour moi, il n'y a pas personne qui va être là pour moi. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la personne qui a cette conviction-là a besoin que le Seigneur la rencontre dans son cœur. Parce que à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a amené à croire que s'il y a quelque chose qui va arriver de bon dans ma vie, c'est parce que c'est moi qui vais le prendre en main. Sinon, je ne peux pas me fier à personne et je ne peux pas me fier à Dieu. Et là, j'ai besoin de m'approcher de Dieu et de lui demander, « Seigneur, toi, tu vois mon cœur. Est-ce que tu peux, Seigneur, venir et me montrer pourquoi je crois que tu n'es pas là pour moi, que je dois prendre les choses en main. » Une autre chose que le Seigneur doit nous montrer, ou qu'on doit lui demander, c'est qu'il nettoie notre cœur de cette attitude orgueilleuse d'autosuffisance. Il faut le demander au Seigneur. Et là, lui, il peut le guérir. Et là, il peut vraiment venir nous montrer qu'il est là pour nous, qu'il veut prendre soin de nous et qu'on peut compter sur lui. Et la troisième chose qu'on peut demander à Dieu, c'est qu'il puisse me donner justement une promesse de sa parole, un verset, un cantique, quelque chose qui va justement caresser mon cœur pour me montrer, oui, Dieu est là pour moi. Oui, il marche avec moi. Oui, je peux me fier à lui. Oui, il est ma haute forteresse. Oui, il est mon refuge. Lui demander, Seigneur, est-ce que tu peux me donner quelque chose qui justement va m'aider à croire dans mon cœur que tu es là pour moi et que la vie ne dépend pas de moi. Seigneur, est-ce que tu peux faire ça ce matin? Vous savez, au chapitre 4, 1 à 12, Jacques nous a parlé de la bataille pour la conquête de notre cœur entre l'amour du monde, la convoitise de la chair et les intentions maléfiques du diable. Et l'amour pour Dieu, la présence de sa grâce et de son esprit dans nos vies et la connexion intime avec Christ pour une pleine satisfaction des besoins de notre âme. Ça, c'est la bataille qui se passe. Jacques nous invite à nous approcher de Dieu avec un cœur soumis, contrit et confiant en lui. Ici, dans les versets 13 à 17, Jacques nous invite à faire le bon choix en rejetant la fausse prétention des orgueilleux qui croient contrôler la manette de leur vie et en recevant cette leçon d'humilité qui nous enseigne que Dieu est bon, que Dieu est présent pour prendre soin de nous et qu'il peut faire, en qui on peut lui faire confiance et lui remettre le contrôle de la manette de notre vie entre ses mains souveraines et ses mains paternelles. Jacques nous invite à laisser Dieu conquérir notre cœur en sachant que c'est lui qui peut le mieux en prendre soin. Il nous invite à lui remettre la manette de notre vie, sachant que c'est lui qui peut le mieux contrôler sa durée et son utilité. Ce matin, le Seigneur vous invite à lui faire confiance. Le Seigneur vous invite à lui remettre la manette de votre vie, parce qu'il veut prendre soin de vous. Et il sait que cette attitude d'autosuffisance nous empêche de le laisser lui prendre soin de nous. Prions ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, je m'approche de toi. Seigneur, ce matin, je veux reconnaître que cette attitude que Jacques parle, j'ai tendance à la voir dans ma vie. Seigneur, je t'admets ce matin que j'ai un cœur orgueilleux. Est-ce que tu voudrais me pardonner, Seigneur? Seigneur, parfois j'ai vraiment de la misère à te faire confiance. Je ne comprends pas pourquoi il y a des choses qui arrivent ou pourquoi il y a des choses qui ne changent pas. Seigneur, est-ce que tu peux me pardonner de mon manque de confiance envers toi? Ce matin, je comprends que c'est cette attitude orgueilleuse dans mon cœur qui m'empêche de te faire confiance. Seigneur, ce matin, est-ce que tu peux me montrer ce qui se passe dans mon cœur? Pourquoi, Seigneur, j'ai de la misère autant à te faire confiance? Peux-tu, Seigneur, ce matin, me montrer l'état de mon cœur? Peux-tu nettoyer mon cœur, Seigneur, de tout péché, d'attitude qui est contre toi? qui m'amène à me centrer sur moi-même. À ne pas prier, Seigneur, quand j'ai besoin de le faire ou à prendre des décisions sans même te consulter comme si tu n'existais pas. Parce que, Seigneur, j'ai de la misère à te faire confiance. J'ai vu tellement de fois où tu n'étais pas là pour moi. Du moins, c'est ce que je pensais. Seigneur, est-ce que tu peux me nettoyer mon cœur complètement? Seigneur, comment est-ce que tu veux changer mon cœur? Comment est-ce que tu veux m'amener à justement te faire confiance, Seigneur? Est-ce que tu peux me donner quelque chose, Seigneur, un verset ou une histoire de la Bible ou un cantique, quoi que ce soit, Seigneur, qui vienne à mon cœur, à mon esprit, qui me rappelle que tu es là pour moi, que je peux te faire confiance. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin que tu viennes à moi ce matin. Je ne veux pas continuer à vivre comme ça, Seigneur. Seigneur, est-ce que tu entends ma prière ce matin? Est-ce que tu vois, Seigneur, mon cœur ce matin? Peux-tu venir, Seigneur, à mon secours ce matin? Je me tourne vers toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, d'être mort à la croix pour moi. Merci, Seigneur, d'avoir pris sur toi tous mes péchés. Merci, Seigneur, d'être patient envers moi. Et de vouloir, Seigneur, connecter avec moi pour que je puisse te faire confiance entièrement. Merci d'être là pour moi, Jésus. Amen.